Et à 12h52, dans le plat de Résistance, on va terminer cette émission avec les clés des libertés qui nous sont données aujourd'hui par Amnesty International. Katia Roux, elle est chargée des technologies et des libertés à Amnesty et elle nous parle de la vidéosurveillance algorithmique et des dangers de la reconnaissance faciale. On l'écoute.
La vidéosurveillance assistée par intelligence artificielle, qu'on appelle aussi vidéosurveillance algorithmique, c'est un procédé technologique qui a pour objectif d'automatiser le traitement des images issues des caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, à la faveur donc, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la France vient d'adopter un cadre législatif, une base légale pour utiliser cette VSA.
Elle pourrait être les invitées les plus discrètes des Jeux Olympiques, des caméras dites intelligentes. Prévue par le projet de loi pour Paris 2024, elle permettrait de scruter les abords des futurs lieux de compétition comme le Stade de France ou la Tour Eiffel, mais aussi les transports en commun.
Concrètement, les algorithmes vont être entraînés à repérer des événements spécifiques, des événements prédéterminés. Et pour ça, ils vont avoir besoin d'énormément de données d'apprentissage, des données personnelles souvent, pour leur apprendre à reconnaître un événement. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une situation. Et donc, à partir de là, le logiciel va produire des alertes, en réalité, dès lors qu'il aura reconnu l'événement pour lequel il aura été entraîné. Et donc, il va y avoir une notification auprès donc, des autorités qui vont recevoir sur leur écran une alerte du logiciel qui aura repéré l'événement qu'il aura été entraîné à déterminer. Ces technologies comportent des risques de discrimination, d'une part avec les données qui sont fournies pour entraîner les logiciels. Ces données-là peuvent être déjà biaisées, peuvent déjà faire l'objet de biais discriminatoires, c'est-à-dire qu'on peut déjà choisir quelles données vont entraîner les algorithmes. Et donc ces algorithmes vont amplifier ces biais discriminatoires. Donc il y a un risque qu'in fine, les personnes qui soient identifiées comme potentiellement suspectes ou des situations potentiellement suspectes automatisent en réalité ces biais discriminatoires. La deuxième chose, c'est que déterminer ce qu'est un comportement normal ou un comportement anormal, c'est aussi un choix humain et ça peut aussi générer des discriminations qui, là encore, vont être amplifiées, automatisées par le logiciel. Dans le cadre de la loi JO, c'est problématique parce qu'on parle de comportements anormaux qu'il faudrait repérer. Ce n'est pas défini du tout dans le texte de loi. Le texte de loi parle d'événements prédéterminés. Dans les débats parlementaires, mais aussi dans l'étude d'impact du texte, on parle certes de colis abandonnés, on parle de mouvements de foule, on parle de comportements anormaux, plus difficiles déjà à définir. On parle aussi de situations présumant la commission d'infraction. Donc on voit là que c'est très très large et en réalité qui peut définir ce qu'est un comportement normal ou anormal? Est-ce que une personne qui se déplace différemment? Est-ce qu'une personne qui est statique trop longtemps? Est-ce qu'une personne qui tout d'un coup va partir en courant va être signalée comme comportement anormal et faire l'objet d'une alerte? Ça pose beaucoup de questions. Il n'y a pas que les JO en réalité qui sont concernés par ce dispositif. L'information du public est compliquée puisqu'en fait les images qui vont être utilisées, ce sont les images issues des vidéos caméras, des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public, mais aussi des caméras qui sont installées sur les drones. Il sera aussi possible de les coupler donc avec la VSA, la vidéosurveillance algorithmique. Et donc là, l'impact en matière de vie privée est très grand. Pour autant, l'efficacité de ces dispositifs n'a pas été démontrée. Il y a une tendance des pays, des États à recourir à ces technologies comme étant effectivement les solutions, on va dire, faciles pour lutter contre le terrorisme et contre la criminalité. Et bien souvent, à l'été, quand on passe cette marche, on ne la redescend pas. Et ça ouvre souvent la voie à l'utilisation de technologies toujours plus intrusives. Garantir la sécurité de ce type d'événement, d'un grand événement sportif comme les JO ou d'autres, c'est un objectif légitime en soi. Mais il appartient au législateur de faire la démonstration qu'il n'y a pas de moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, on ne nous a pas prouvé, en réalité, que ce soit le gouvernement ou les députés ou les sénateurs qui ont soutenu ce texte, qu'il n'y avait pas d'autres moyens qui impactent moins la vie privée, qui impactent moins la liberté d'expression, qui impactent moins la liberté de réunion pacifique, qui ne pourraient pas être suffisants, en réalité, pour garantir la sécurité des JO. Ce projet de loi donc, sur les JO 2024 a été adopté en procédure accélérée, sans qu'il y ait véritablement de débat public et politique, dans une actualité qui était extrêmement chargée. Un texte de loi qui va avoir des impacts très très grands et sur plusieurs années probablement, a pu être adapté sans réellement que le public sache de quoi il était question et se rende compte de l'impact sur les droits et les libertés fondamentales. Avec l'adoption de cette loi, la France en réalité devient le premier pays de l'UE à légaliser, créer une base légale, certes expérimentale, mais tout de même de la VSA. Au moment des débats parlementaires, une quarantaine de députés européens ont interpellé leurs homologues français pour leur demander de ne pas adopter ce dispositif, de rejeter l'article 7, parce que ça allait créer un précédent au niveau de l'Union européenne, parce que potentiellement ça allait violer le futur règlement de l'UE sur l'intelligence artificielle, mais aussi parce que quelque part ça envoyait un signal au monde entier et aux autres États qui voudraient utiliser cette technologie contre leur population, un signal de « vous pouvez le faire ». Il y a ce sentiment, on va dire, assez diffus que finalement c'est pas si grave d'utiliser ces technologies de surveillance. Finalement, j'ai rien à cacher. Si ça peut aider à lutter contre le terrorisme, finalement, voilà, ma vie privée en face, c'est pas si important. En réalité, c'est central. Ce sont les libertés fondamentales, ce sont les libertés d'expression, de réunion, peut-être d'association. La vie privée, le droit à la vie privée, ce n'est pas que des immixtions arbitraires dans sa vie privée. C'est aussi la manière dont on contrôle le partage de nos données personnelles. C'est aussi le fait d'avoir un espace privé où on peut affirmer son identité propre. Tout ça, c'est extrêmement important. Et si, petit à petit, ces libertés sont grignotées, on va se retrouver effectivement avec une société où il est de plus en plus dur de s'exprimer, de plus en plus dur de se mobiliser. Et ça nous concerne tous. Il est important que chacun et chacune à son niveau se pose la question du besoin d'utiliser ces technologies de surveillance, mais aussi de l'impact sur les droits humains, sur les libertés fondamentales. C'est pas anodin, en réalité, cette ingérence dans la vie privée. Ça peut effectivement avoir des effets au long cours sur l'exercice de beaucoup d'autres droits. Et donc, il faut pouvoir effectivement interpeller nos dirigeants, nos représentants sur cette question. Par ailleurs, à Amnesty International, on restera extrêmement vigilant et mobilisé sur la mise en œuvre de cette loi, puisqu'elle va concerner un certain nombre d'événements, et on alertera à chaque fois qu'on estime qu'effectivement il y a eu des abus.
Voilà, merci beaucoup à Katia Roux d'Amnesty, chargée des technologies et des libertés, pour cette chronique extraite d'une vidéo publiée par Amnesty International que vous pouvez retrouver sur le web et qui s'intitule « JO 2024, allez-vous être surveillés ?»